Chapitre 5. Trois pavillons et une prison.
Merci.
Zizo ouvrit les yeux, les frotta pour s'assurer qu'il était bien sorti de son sommeil, se redressa un peu sur le lit et se demanda un long moment qui était cette fille qui se penchait sur lui. Il ne voyait d'elle que deux yeux clairs et rieurs comme deux fleurs mauves au milieu d'un champ de taches de rousseur. « Merci, » répéta la fille en se penchant encore davantage. Elle rattrapa au dernier moment la couronne de roses qu'elle portait sur sa tête. Zizo pensa bêtement qu'elle devait se piquer aux épines, mais la fille ne semblait rien sentir. Il examinait la pièce sombre autour de lui, laissant courir son regard sur les étranges murs de pierre arrondis, sans aucune fenêtre, tout l'inverse du tipi d'où l'on voyait le ciel partout. Il avait l'impression que la pièce où il se trouvait avait été creusée sous la terre.
« Sans toi, je serais morte, » continua la fille.
Zizo ne répondait toujours pas. Il réfléchissait. Il commençait à parvenir à trier entre ses souvenirs et ses rêves, entre le trou noir de la nuit et ce qui s'était passé avant, l'enchaînement si rapide des événements. Il se rappela son cri, juste avant que la statue du cheval cabré ne bascule, le bond de côté de la fille à la couronne, le vacarme terrible de la statue qui se fracasse, les enfants du château qui arrivent de partout, sa panique et sa tentative pitoyable de fuite entre les grandes statues. Il n'avait même pas eu le temps de se faufiler dans un trou, de bousculer un ou deux enfants, que des mains cherchaient déjà à l'attraper, comme lorsqu'il jouait à balle d'autruche dans le champ près du tipi. Il se souvenait aussi de son dérapage sur les pavés dès qu'il avait voulu feinter et changer brusquement de direction. Jamais il n'avait senti sous ses pieds un sol aussi glissant, même quand il faisait froid à geler les étangs. Il ressentait encore l'horrible sensation de perdre l'équilibre, de glisser, de ne rien trouver pour s'agripper, et de sa tête qui va cogner contre la statue de l'homme combattant le lion. Puis, plus rien. Instinctivement, Zizo toucha son front. Il sentit une bosse.
« T'inquiète pas, t'as rien. On t'a mis de l'arnica par précaution, mais t'as rien. »«
De quoi ?
De l'arnica ?
C'est quoi ?
Un médicament. »«
Un quoi ?
Une plante, si tu préfères. Une plante qui soigne. »«
Ah, d'accord. Ça, je comprends. »
Zizo sentait que la conversation avec cette fille allait être compliquée.
Pourtant, étrangement, il n'avait pas peur.
Si ceux du château avaient voulu le tuer, il l'aurait déjà fait.
Et cette fille avec sa couronne sur la tête n'avait pas l'air méchante, même s'il n'aimait pas trop la façon dont elle l'observait. Il avait l'impression d'être une sorte de bête curieuse. La fille le regardait de la même façon qu'Angèle regardait les pigeons avant d'essayer de leur apprendre des trucs élémentaires, comme picorer dans sa main ou retrouver leur chemin entre deux maisons.
Un regard gentil.
Angèle n'avait jamais fait de mal à un animal avec un bec et deux ailes.
N'empêche, Zizo n'aurait pas aimé être le pigeon et passer pour un abruti.
Il prit le temps de réfléchir. Il avait dormi longtemps, visiblement. Peut-être toute une journée, puis une nuit. Les enfants du tipi devaient être inquiets. La mission confiée par Akan et Mordelia était de rentrer chaque soir et d'être prudent.
Zizo se leva.
« C'était un plaisir de te sauver la vie. Je peux te dire que ça n'a pas été facile d'arriver pile dans ton château au moment où le cheval n'en pouvait plus de se tenir sur ses pattes arrière. Mais faut que je parte maintenant, tu comprends ? On m'attend. »
Il fit trois pas vers l'épaisse porte de bois. Ceux du château l'avaient soigné, l'avaient laissé se reposer. Ils n'étaient pas du tout les monstres que Mordelia et les autres croyaient. Il avait hâte de raconter tout cela à ses amis du tipi. La fille aux roses dans les cheveux en profita pour s'asseoir sur son lit.
« Ne dis pas de bêtises !»
Zizo sursauta.
Ça se confirmait. Cette fille lui parlait exactement comme à un pigeon.
« Quelle bêtise ! » !»«
Bah, tu te doutes bien que t'es prisonnier !»
Un pigeon en cage, pensa aussitôt Zizo. Et il savait que, dès qu'Angèle avait le dos tourné, les pigeons finissaient déplumés et rôtis entre les mains des autres enfants du tipi. Et si Mordelia avait raison? Et si ceux du château
étaient vraiment des bêtes féroces et rusées.
« Vous allez me manger ?» demanda Zizo.
La fille le regarda bizarrement, sembla réfléchir, puis répondit
« Oui, mais j'hésite encore comment. Avec des champignons ?
Des carottes et une sauce aux oignons ? Mijotées pendant des heures ? Par contre, je crois que mes copines te préféreraient bien grillées, à vif, avec juste un peu de salade. »
Ils restèrent un long moment à se dévisager. La fille semblait très sérieuse, jusqu'à ce qu'elle éclate de rire. Zizo comprit qu'elle plaisantait.
Ouf ! Il tourna la poignée de la porte.
Fermée. Il soupira et s'appuya contre le mur.
D'accord. Je suis vraiment prisonnier. J'ai le droit de connaître ton nom avant d'être transformé en brochette ?
T'as le droit. Moi, c'est Alix.
Et c'est quoi ce truc sur ta tête ?
Une couronne ?
Je vais te confier un secret. Et surtout, tu ne le répètes pas. Je suis la reine de ce château. Normalement, tu devrais m'appeler Majesté, ou ma reine, ou Sire, ou Votre Altesse. Mais comme tu m'as sauvé la vie, t'es un petit privilégié, alors appelle-moi comme tu veux.
Zizo aimait bien finalement écouter cette fille. Même si ce qu'elle racontait avait l'air complètement dingue, il avait l'impression qu'elle n'inventait rien, sauf quand elle disait qu'il allait finir en brochet avec des champignons. Du moins, il l'espérait.
Alix lui fit signe de s'approcher, de venir s'asseoir sur le lit.
Il ne bougea pas.
« Et toi, tu t'appelles comment ?»«
Zizo. Enfin, mon nom complet, c'est Zizomis, mais tout le monde m'appelle Zizo. »«
Ça te va bien. Tu sais que Zizomis, c'est le nom d'une souris en Australie ?»«
En quoi ?»
La reine éclata encore de rire.
Mais peut-être qu'on aurait plutôt dû te donner le nom d'une grenouille. Ranette ou Tétard. Dès que je dis un mot, tu réponds « Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ?»
Zizo haussa les épaules, puis essaya à nouveau, frénétiquement, de tourner la poignée de la porte.
« Ne te vexe pas, je rigole. Je sais bien qu'il y a plein de trucs que tu ne peux pas connaître. Que t'es un enfant de la tour Eiffel.
De la cou... » Zizo s'arrêta à temps et ne put s'empêcher de sourire. Il laissa Alix continuer.
« La tour Eiffel, le truc en fer plus haut que les plus hauts immeubles et que vous avez transformé en tente avec vos tissus et vos peaux. Elle a été construite il y a des siècles, je crois, mais je suis nul en histoire. Ils pourront expliquer ça mieux que moi au pavillon des savants. Vous n'avez pas de livre dans votre tente géante ?
Notre tipi, on dit tipi.
D'accord, vous n'avez pas de livre dans votre tipi ?
Si, quelques-uns. Surtout des livres d'animaux.
Mais pas d'atlas, de dictionnaire.
Des coups.
Un silence passa. Une nouvelle fois, Zizo regarda la porte et Alix regarda Zizo. Il eut le sentiment qu'elle avait pitié. Elle tira une grosse clé de fer de la poche de sa robe.
Allez, on bouge. Après tout, t'es mon protégé.
Et je suis la reine.
Je croyais que je n'avais pas le droit de sortir.
Vrai. Interdit de mettre un pied dehors.
Par contre, tu as le droit de visiter l'intérieur.
Donc, tu vois, ici, tu es au pied du vieux donjon. La partie la plus ancienne du château avant qu'on en reconstruise un autre par-dessus.
Je te rassure, moi je ne l'ai pas connu non plus.
Et ici, on n'y vient pratiquement jamais. Franchement, quel intérêt. C'est froid, humide et noir, on le réserve aux araignées.
Et à nos invités préférés.
Elle tourna la clé dans la serrure de fer, ouvrit la lourde porte du bas et fit signe à Zizo de passer en premier.
Merci, Majesté. Je peux te dire que je ne suis pas prêt de te sauver à nouveau la vie.
Zizo monta des marches assez raides. L'escalier était éclairé comme par magie par de drôles de bougies accrochées au mur, mais qui ne semblaient pas brûler. Aucune flamme, aucune chaleur. Seulement de la lumière. Il évita de poser la question et fit comme s'il était tout à fait normal qu'on puisse attraper des morceaux de soleil et les coller dans des tubes de verre pour éviter de se casser la figure dans un escalier sans fenêtre.
« Ne t'inquiète pas, » fit Alix. « On va bientôt retrouver le jour. Je te fais les présentations. Notre château a un peu servi à tout depuis qu'il a été construit, il y a une éternité.
Il paraît que c'était la maison des rois avant, car figure-toi
que seuls les garçons pouvaient devenir rois. Pas de reine. Tu y crois, ça ?
Zizo continuait de gravir l'escalier, d'écouter Alix qui poursuivait son récit d'une voix joyeuse.
Puis, d'après les savants, le château est devenu une prison. Tu vois, ça va te consoler, t'es pas le premier. Et enfin, il a été transformé en musée, le plus grand musée du monde à ce que les singes racontent. Mais ils ont tendance à exagérer. Le Louvre, c'est son vrai nom, même si on dit tous le château.
Zizo ne comprenait qu'un mot sur deux. Il ignorait, par exemple, ce qu'était un musée. Il continuait d'observer, fasciné, les torches sans flamme. Désormais, la curiosité l'emportait sur toute forme de peur. D'ailleurs, il n'était pas au bout de ses surprises. Parvenu sur le palier, il tomba nez à nez avec la statue la plus bizarre qu'il ait jamais vue. Une tête d'homme posée sur un énorme corps de lion. Partout, au mur, étaient gravés des symboles semblables à ceux de l'aiguille sur la grande place ronde. Alix s'avança à côté de lui.
« Je te présente le Sphinx. C'est le gardien du pavillon des savants. Il commence ici, si tu continues de monter les escaliers. Allez, je vais t'expliquer en quelques mots, ce n'est pas compliqué. Le château est construit en forme de U. Trois côtés, si tu veux, avec une grande cour au milieu. Mais ici, on ne dit pas « côté » ou « couloir », ou galerie, on dit pavillon. Donc, il y a trois pavillons. Les trois S, si tu préfères, c'est un moyen simple pour te le rappeler. Juste derrière le sphinx, donc, c'est le pavillon des savants. Les premiers de la classe, tu vois, les intellos, les grosses têtes, ils vivent au milieu des vieilles antiquités égyptiennes, comme ce sphinx. On trouve aussi des sarcophages, des dieux animaux, des bijoux, et même une momie.
Je te montrerai, ça fout un peu les jetons. Alix fit signe à Zizo de prendre un couloir sur le côté.
Quand on va remonter à droite, vers la rue, celle où tu as escaladé le mur, là où il y a toutes les statues, c'est le pavillon des soldats. Tu te doutes qu'on regroupe là les enfants les plus costauds, les plus sportifs, les plus rapides. Entraînement, 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 ça ne rigole pas plus chez eux que chez les savants. Et si tu prends l'aile gauche, le long du fleuve et du sanctuaire, c'est le pavillon des singes. Me demande pas pourquoi ce nom, je ne sais pas. Mais on y retrouve tous ceux qui ont soi-disant un talent pour jouer de la musique, par exemple, ou pour écrire, et avant tout, pour dessiner et peindre. Tu comprendras pourquoi quand tu visiteras. Tu vois, c'est pas sorcier.
Zizo trouvait une telle organisation bien étrange. Au tipi, à part obéir aux ordres d'Akan et parfois de Mordelia, et respecter les tours de corvée, de pêche et de chasse calculés par Vanille, tout le monde faisait ce qu'il voulait quand il le voulait. Les enfants doivent rester dans leur pavillon. Ils parvenaient dans un gigantesque hall. Zizo n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Le ciel se dévoilait derrière une immense pyramide de verre. On distinguait chaque détail de chaque nuage, sans rien sentir du froid ou du vent.
Bien sûr que non. On n'est pas en prison. On peut se promener dans tout le château et dans les jardins, mais tous les enfants doivent suivre des cours, manger, se laver, dormir dans l'un des trois pavillons. Et ça, depuis qu'on a 6 ans. Depuis ces foutus tests. Je te préviens, je déteste les tests.
Zizo n'avait aucune idée de ce qu'était un cours et encore moins un test, mais il commençait à apprendre à bloquer les « quoi » dans sa gorge. Les mots inconnus finissaient par s'expliquer tout seuls. « Et toi » demanda-t-il. « Tu es dans quel pavillon ?» Alix se redressa en riant. Ils se retrouvèrent sous la pyramide. Le soleil jouait sur les centaines de petits losanges de verre collés pour former 4 grands triangles, reliés en un seul sommet, si pointus qu'ils paraissaient capables de découper les nuages aussi facilement qu'un silex aiguisé tond la laine des moutons.
« Moi, je suis reine, mon petit garçon. Je ne dors pas dans un pavillon. Je possède mes appartements. »
Elle ne put retenir une grimace, et Zizo devina qu'elle mentait, ou qu'au moins elle ne disait pas toute la vérité. Dans une verrière gigantesque, sur leur droite, de nouvelles statues étaient exposées, plus gigantesques encore que les précédentes. Des chevaux cabrés, des géants casqués, des guerriers barbus et armés. Zizo se sentait minuscule à côté.
« Voilà l'entrée du pavillon des soldats,
annonça Alix.
Je te rassure, même s'ils se prennent tous pour Hercule, y compris les filles, ils sont beaucoup moins balèzes que ces guerriers sculptés. Et mes appartements sont tout au bout, mais tut-tut-tut, c'est privé, interdit aux étrangers.
Zizo laissa traîner son regard sur les statues. Il eut une sensation étrange devant tous ces adultes, hommes et femmes, presque toujours entièrement nus. À travers les larges fenêtres, il reconnaissait la rue par laquelle il était arrivé hier matin, les maisons aux murs de verre, les piliers de pierre. S'il courait très vite, brisait l'une des vitres, pourrait-il se sauver? Non, analysa-t-il à toute vitesse, toutes les ouvertures étaient protégées par de solides barreaux, toutes sauf celle par laquelle il était entré. Mais il ignorait où elle se situait, et sans doute l'avait-il déjà réparée. Alix semblait réfléchir. Zizo eut l'impression qu'elle hésitait à lui confier un secret. Il apercevait sur les murs des panneaux avec des flèches et déchiffra « Appartement Napoléon III ».
« Oh, et puis mince !» fit d'un coup Alix en lui attrapant le bras. « Je peux bien te le dire, après tout. »« C'est vrai, je dors au bout du couloir, dans les appartements de la reine. Mais le reste du temps, je fais partie du pavillon des soldats, comme les autres, depuis que j'ai 6 ans. » Et je vais te faire une autre confidence. Je déteste le pavillon des soldats. Depuis toujours. Je n'ai jamais compris pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Mon rêve à moi, ce serait d'être au pavillon des singes.
Et tu ne peux pas changer? Ce n'est pas toi la reine?
Je ne suis reine que pour une année. Enfin, sauf si je suis réélue. Donc, dans moins d'un an, je redeviens une fille ordinaire, un bon petit soldat.
Comment on devient reine?
C'est une longue histoire. Comme t'es prisonnier à vie ici, je te la raconterai plus tard.
Ils grimpèrent un nouvel escalier et se retrouvèrent derrière une nouvelle baie vitrée. Devant eux, de l'autre côté des murs de verre, s'ouvraient les jardins du château. Un long champ bordé de haies de roses s'étendait entre le fleuve et la rue de Rivoli, jusqu'à la place de l'Aiguille, plantée d'arbres fruitiers, de rangées de blé et de maïs, de parterres de légumes. Les pétales des arbres en fleurs tombaient en une pluie rose et blanche, se mélangeant aux pétales rouges sang des roses. Une autre question brûlait les lèvres de Zizo. « Et vous ne sortez jamais? Comment vous faites pour manger?
Je connais par cœur cette ville et on ne vous voit jamais chasser ni pêcher. Et si vous ne mangez même pas vos prisonniers ?»
Alix le regarda avec de gros yeux gourmands, ouvrit la bouche en grand pour lui montrer ses dents, puis s'avança vers son épaule pour faire semblant de le mordre goulûment à travers le tissu de sa tunique. « À la façon, pensa Zizo, dont Bill dévorait un lapin sans même prendre le temps de le laisser cuire. »
Alix s'arrêta à temps et éclata à nouveau de rire. « Tout est là, jusqu'à l'obélisque là-bas. »
Zizo comprit qu'elle parlait de l'aiguille.
« Tout ce qu'on mange est devant toi. »
Cette fois, c'était à Zizo d'ouvrir de grands yeux.
« On mange des fruits, » expliqua Alix, « et des légumes. On sème, on plante, on cultive, on récolte, on stocke des graines, des féculents, des fruits secs, on fait des conserves, des confitures, des sirops. On est des végétariens. C'est comme ça que l'on dit. On ne mange jamais de viande. Ça fait partie des règles de base enseignées par Marie-Lune. » « Ne jamais tuer un animal !»
Zizo ne comprenait rien. Il ignorait évidemment qui était Marie-Lune. Et ne manger que des fruits, des fleurs et des tiges ne lui donnait pas vraiment envie.
« Même pas un poisson ?» fit Zizo. « Ou des grenouilles grillées ? Ou une tranche de cochon sauvage ?»
Alix fit une terrible grimace et Zizo réalisa à quel point la seule idée de manger un animal mort la dégoûtait. Et dire, pensa Zizo, que les enfants du tipi sont persuadés que ceux du château les dévoreront s'ils les attrapent. Il n'était donc pas si dangereux, même s'il le retenait prisonnier.
Je reconnais qu'à la longue, avoua Alix, les pommes de terre aux choux et les haricots verts, on peut en avoir un peu marre. Mais on a bien mieux que ça, et tu vas adorer.
Elle sortit de sa poche, enveloppée dans un papier, une boule rose.
« Les lollipops, la friandise des reines, et des enfants très sages. Dans le pavillon des singes, en plus des peintres et des musiciens, il y a aussi des pâtissiers. Honora,
le cuisinier le plus doué du pavillon en fabrique à 1000 parfums. Lavande, fraise, myrtille, miel, caramel, noisette, ma préférée.
Elle rangea la lollipop dans sa poche.
Et hop, je te ferai goûter, si t'es sage et que tu ne cherches pas à t'évader.
Zizo haussa les épaules, comme s'il s'en fichait. Même si ce n'était pas vrai, il était intrigué.
Alix s'engagea dans un nouveau grand escalier sur leur gauche.
Il la suivit. Une nouvelle question le taraudait.
Il n'avait croisé aucun enfant depuis qu'ils étaient remontés de son cachot au pied du donjon. Ils avaient pourtant longé les trois pavillons.
« Il m'a tout de même l'air plutôt vide, ton château. T'es sûr que t'es pas la reine des courants d'air ?»«
Ha ha! Monsieur l'espion prend ses renseignements. Tu voudrais savoir combien il y a d'autres enfants ?»
Elle regarda une horloge accrochée au mur à côté d'eux.
« Ne t'en fais pas, ils vont bientôt arriver. »
« Ils sont où ?»«
En cours. »«
En quoi ?» Ce « quoi » là, Zizo n'avait pu le retenir. Alix le dévisagea, amusé.
« Quoi, 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 monsieur le crapaud ? Quoi, quoi, c'est quoi, un cours ? Sauve-toi vite alors, petit sauvage. T'as trop de chance de ne pas savoir ce que c'est, et mieux vaudrait pour toi que tu ne l'apprennes jamais. »«
C'est quoi, un cours ?» insista pourtant Zizo. Au même moment, une trentaine d'enfants descendirent en courant le grand escalier, sortant sans doute, si Zizo avait bien suivi, du pavillon des singes. Tous passèrent devant eux en riant et criant. Des garçons et des filles, exactement de son âge, une douzaine d'années, sans s'arrêter, sans même lui jeter un regard. Seule une fille ralentit. Elle était habillée d'une jupe courte qui volait comme une fleur autour de sa taille et d'un haut rose très près du corps qui dévoilait son nombril et se collait à sa poitrine beaucoup plus formée que celle de toutes les autres filles de son âge. Elle s'adressa à Alix en riant.
« Déjà en train de draguer, ma vieille ?»
Puis elle accéléra à nouveau.
« Je vais chercher une lollipop pimento et je reviens. Honora m'a demandé de les tester. Je l'ai bien mérité. Marie-Lune nous a gavés avec l'histoire des vitraux du sanctuaire pendant presque 2 heures. »
La fille en rose avait déjà disparu en bas de l'escalier. Alix pensait sûrement que Zizo allait lui demander ce qu'était un vitrail, ou qui était Marie-Lune, ou même ce que voulait dire draguer. Le jeune garçon se contenta, au contraire, de lui adresser un énorme sourire.
« Ma vieille, eh bien, je crois que tout le monde devait t'appeler votre majesté. »«
Fit Alix, gênée tout en triturant sa couronne de rose.
« Elle, c'est ma meilleure amie, Sabi. Elle est... comment te dire ?
Elle est complètement cinglée. »«
Viens, j'ai une dernière chose à te montrer. »
Ils continuèrent à grimper les marches. Par la grande fenêtre qui éclairait le palier, Zizo apercevait le fleuve bordant les murs du château, puis de l'autre côté de la rive, les deux tours de l'île du sanctuaire, et au-dessus, dans le ciel, le point rouge du soleil de fer. Zizo gravit encore quelques marches et remarqua sur sa droite une étrange pièce ronde, au mur couvert d'or et au plafond en forme de bol entièrement peint de dessins anciens. Sur le sol en damier blanc et gris, une centaine de chaises étaient posées, en rang serré. Plus étrange encore, sur un côté de la pièce ronde, un grand drap blanc, accroché au plafond, était tendu, occupant presque un tiers de l'espace. Sur le drap blanc s'affichait le visage géant d'un adulte, une femme. Et le visage de la femme bougeait. Elle n'était pas vivante, Zizo l'avait compris, ce n'était qu'une image, une autre peinture, un dessin, mais celui-ci était animé, comme si des enfants s'étaient dissimulés derrière le drap pour agiter chaque partie de ce tableau dans un mouvement parfaitement coordonné.
« C'est la rotonde d'Apollon, » expliqua Alix. « La salle de conférence, si tu préfères. Celle où les enfants des trois pavillons se réunissent quand Marie-Lune veut nous dire à tous la même chose en même temps. »
Alix ne laissa toujours pas le temps à Zizo de demander qui était Marie-Lune, ni par quel prodige cette image géante s'animait.
« Et celui que tu vois avec les lunettes en argent, le seul dans la rotonde, c'est Ogénor. »
Zizo s'aperçut alors que la pièce ronde n'était pas vide. Parmi la centaine de chaises, une seule était occupée. Une chaise étrange,
en fer, avec des roues. Le garçon assis dessus était très blond, très pâle, très maigre, encore davantage qu'Agnel.
Et lui n'est pas en cours comme les autres ?
Zizo ne savait toujours pas ce qu'était un cours, mais il avait compris que c'était une chose obligatoire pour tous les enfants, comme les corvées au tipi, chercher de l'eau, entretenir le feu, réparer les toiles, coudre les habits.
Pas aujourd'hui. Lui, il a choisi. Il est le seul enfant qui a le droit. Pour t'expliquer en deux mots, lors de ces fameux tests, quand on avait tous 6 ans, on devait aller dans le pavillon où l'on avait les meilleures notes ou les moins mauvaises. C'est Marie-Lune qui calculait tout. Mais lui, Augénor, a eu les meilleurs résultats au test des 3 pavillons. Donc il a été autorisé à suivre des cours dans les 3 pavillons à la fois. Et il peut ne rester que 5 minutes en cours au lieu d'une heure s'il veut. Il a déjà tout compris. Alors le plus souvent, il préfère rester tout seul à écouter Marie-Lune.
Alix reprit son souffle. Zizo parvint enfin à demander. C'est elle, Marie-Lune, la femme sur ce drap?
Elle-même, notre maman à tous. T'inquiète, tu vas bientôt la connaître. Et ce n'est pas un drap, mais un écran.
Zizo regarda le grand visage qui semblait parler à Augénor. Marie-Lune, une adulte? Une adulte vivait dans le château? Zizo n'arrivait pas à le croire. Il fallait qu'il en sache davantage. 1000 questions tournaient dans sa tête. Il allait poser la première quand une main collante se posa sur son poignet.
Délicieux, les pimentos. Honora est un génie. Celle à la monde sauvage est une tuerie.
Sabi.
3 bâtons de lollipop sortaient de sa bouche.
Elle s'essuya les mains sur sa jupe, regarda tour à tour Alix et Zizo, sembla follement s'amuser, puis s'arrêta sur Zizo et retira les 3 lollipops pour mieux articuler.
Mes hommages, petit barbare. Merci d'avoir sauvé notre reine adorée.
Elle mima une révérence moqueuse.
Et au passage, ma meilleure copine.
Même si Sabi le fixait avec la curiosité qu'aurait eu Agnel s'il s'était trouvé nez à nez avec un perroquet, un oiseau dessiné dans le livre d'Agnel dont Zizo doutait qu'il puisse exister, il ne pouvait s'empêcher de lever les yeux vers Marie-Lune. Il n'avait qu'une envie, entrer dans cette pièce et écouter ce qu'elle racontait à cet Augénor assis sur sa chaise roulante.
« Hola !» fit Sabi. « On dirait que c'est la première fois que tu vois la lune. Et cette petite princesse d'Alix ne t'a rien expliqué ? Alors, première info, question de survie. Si tu tournes à gauche après la rotonde, tu arrives aux cuisines et à la cantine. Ici, on l'appelle le salon des 7 cheminées. Mais en attendant le prochain repas, suis-moi, on va chez les singes, on va te faire un topo express. »
Elle leva les yeux au ciel, vers le soleil de fer, juste au-dessus de la pointe de la pyramide. Zizo regarda cette fois dans la même direction. Sabi lui prit la main, puis celle d'Alix, et les entraîna, joyeuse et excitée.
« Vous, les petits sauvages, vous passez votre temps à grimper aux arbres et à dormir au soleil, bande de vénards. Pas de journée entière de classe avec Marie-Lune à vous coltiner. Mais vous devez quand même vous poser quelques questions de temps en temps, non ? Comme ce que fiche au-dessus de nos têtes ce deuxième soleil qui crache des éclairs de lumière 2 fois par an. »
Ils montèrent en haut d'un nouvel escalier, emportés par l'énergie de Sabi. Ils bifurquèrent à droite vers une haute et large galerie.
La galerie d'Apollon, commenta Sabi. Avant, il paraît qu'il y avait les plus beaux bijoux du monde ici. Mais personne ne sait ce qu'ils sont devenus.
Zizo en resta sans voix. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Le plancher était fait d'un bois si brillant qu'on l'aurait cru peint avec de la poussière d'étoiles. Les murs étaient décorés, du sol au plafond, de sculptures monumentales couvertes d'or. Il n'eut pas le temps de s'arrêter pour se frotter les yeux et vérifier qu'il ne rêvait pas. Sabi l'entraîna dans une nouvelle galerie. Elle était aussi stupéfiante que la précédente. Il passait sous des arches tenues par des colonnes de la même teinte marbrée que des peaux de serpents abandonnées. Sous les colonnes, les plafonds voûtés étaient composés de pierres plus scintillantes que des écailles de poissons. Partout au mur étaient accrochés des tableaux 2 fois plus hauts que Zizo, représentant des hommes et des femmes portant des bijoux, des couronnes, des tissus si bien rendus qu'on aurait cru des vrais, si ce n'est qu'il n'avait jamais vu des rouges aussi rouges, des bleus aussi bleus, des noirs aussi noirs, comme si ses yeux découvraient de nouvelles couleurs. C'était cela, le château? Un endroit où tout était beau?
Mon école,
fit sobrement Sabi en lâchant la main de Zizo pour retirer les sucettes de sa bouche.
Le pavillon des singes. Tu sais qu'Alix, toute reine qu'elle est, crève de jalousie de ne pas être en classe ici.
Elle adressa un clin d'œil à Zizo alors qu'Alix lui tirait la langue.
Et moi, je donnerais mon poids en lollipops pour faire partie du pavillon des soldats.
Elle observa devant elle, en soupirant, la peinture d'un homme barbu, portant une étrange assiette blanche au-dessus de la tête.
Tu sais comment j'appelle ce couloir avec toutes ces peintures préhistoriques? La galerie des poussières. Comment peut-on préférer tous ces vieux types aplatis dans leur cadre aux statues des héros tout en muscles du pavillon d'en face? En prime, les plus beaux garçons du château sont tous là-bas.
Sabi passa sa langue sur ses lèvres. Zizo n'arrivait pas à déterminer si elle plaisantait ou non. Puis elle enfila à nouveau les trois bâtons sucrés dans sa bouche et reprit la main de Zizo. Ils marchaient de front, tous les trois. Alix ne disait rien, mais son regard ne perdait pas une miette des tableaux, des dorures, comme si elle était tout aussi subjuguée que Zizo. Sabi s'arrêta soudain pour esquisser une petite révérence qui manqua de les faire tous glisser sur le parquet devant une minuscule peinture sombre représentant le visage d'une femme.
« Faut jamais oublier de saluer Mona !» plaisanta Sabi. « Sinon, elle rapporte tout à Marie-Lune. Regardez ce petit sourire de fourbasse !»
Zizo avait de plus en plus de mal à comprendre, entre les tableaux qui bougeaient et parlaient, et ceux peints, immobiles et silencieux, qu'il fallait saluer.
« On est bientôt arrivés !»
annonça Sabi. Ils entrèrent dans une nouvelle galerie, au haut mur rouge, où les tableaux atteignaient cette fois une taille démesurée. Des milliers d'hommes et de femmes peuplaient les immenses fresques, certains dévêtus, d'autres portant armes et armures. Une femme au sein nu brandissait un drapeau tricolore. Des hommes sur un bateau en train de couler agitaient leurs mains ou des tissus. Zizo reconnut le sanctuaire sur un troisième tableau géant. Sabi s'arrêta enfin et proposa à Zizo et à Alix de s'asseoir.
Ah, « Celui-ci, c'est mon préféré. Les Sabines. Comme mon prénom, t'as remarqué ?»«
Il m'a toujours intrigué, ce tableau. » Zizo observait sur le grand tableau face à lui une scène de combat très violente. Des hommes et des femmes presque nus, armés d'épées, semblaient prêts à s'entretuer au milieu d'enfants et de bébés posés à leurs pieds.
« Pourquoi ?»
continua Sabi en fixant le tableau.
« Pourquoi ces femmes si belles, au lieu de protéger leurs bébés, les laissent entre les guerriers qui risquent de les écraser ?»« Mystère, hein ? Bon, on verra ça plus tard, » conclut-elle, « ce n'est pas le sujet. »« Ma reine, c'est à vous, je vous en prie. Ce jeune barbare doit tout savoir, puisqu'il va devoir passer le reste de sa vie ici. »
Alix se leva et fit glisser son regard sur les différentes fresques peintes.
Tu vois, Zizo, tous ces gens habitaient la terre avant. Je suis nul en histoire, mais tous ces tableaux nous racontent le passé, il y a des milliers d'années ou seulement quelques centaines, je ne sais plus.
Elle regarda successivement un vieux tableau représentant un couple nu, l'homme tenait une pomme et la femme parlait à un serpent, puis un autre où une fille aux cheveux courts brûlait sur un bûcher, puis un dernier où un homme en robe posait une couronne sur la tête d'un autre, agenouillé.
Enfin bref, continua Alix, ce sont ces gens qui ont habité la terre avant nous, qui ont construit tout ce qu'on voit dehors, les maisons, les ponts, les rues, les sanctuaires, ce château, ton tipi, des parents, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, et ainsi de suite pendant des générations et des générations. Et puis, un jour,
elle fit le geste d'un oiseau qui s'envole.
Fouf, tout a disparu.
Comment ça, disparu ? Demanda Zizo.
Si tu as besoin de détails plus précis, il faudra demander à Augénor. Lui connaît tout ça par cœur. Moi, je n'ai que les grandes lignes.
Elle réajusta sa couronne. Il y a 12 ans, 12 ans exactement, des milliards d'êtres humains vivaient encore sur Terre. Adultes, enfants, bébés, tous en bonne santé, respirant à plein poumon l'oxygène produit par toutes les plantes de la Terre. Zizo avait déjà du mal à suivre. Respirer, il comprenait. Mais l'oxygène... Personne, poursuivit Alix, pas un seul être humain, pas un seul savant ne s'est aperçu qu'un poison s'était glissé dans l'oxygène. On ignore combien de temps, quelques heures peut-être, ou quelques jours, avant qu'il ne se disperse. Un poison inodore, incolore, indétectable, qui se mélangea à l'air. Personne ne sut d'où il était venu, sans doute d'une autre galaxie, des poussières d'étoiles mortes poussées par le vent bien au-delà du ciel, c'est ce qu'on nous a raconté. Mais d'autres parlent de l'expérience secrète d'un fou. On ne saura sûrement jamais. Peu importe, le résultat est le même. Un gaz toxique s'est mêlé à l'oxygène. Et tous ceux qui le respirèrent, c'est-à-dire tous les êtres vivants sur Terre, humains mais aussi tous les animaux, étaient condamnés à mourir. Le gaz attaquait leur organisme, plus ou moins rapidement, sans aucune chance d'en réchapper. Il accélérait la vieillesse. Si tu veux, au lieu de mourir en une centaine d'années, ça prenait quelques mois pour la plupart des gens, parfois un an, ou quelques années, 4 ou 5, pour une toute petite poignée de chanceux. Zizo commençait à comprendre. Ça lui rappelait la fois où ses étourdis de Mouk et Camélian s'étaient endormis dans une cabane dans la forêt après avoir fait du feu, malgré les recommandations d'Akan. Ils avaient respiré de la fumée pendant leur sommeil. On les avait retrouvés, au matin, inanimés. On les avait même cru morts, avant que Mordelia ne parvienne à les sauver. Ils comprenaient pourquoi tout le monde était mort sur Terre. Personne ne peut se retenir de respirer plusieurs heures, encore moins plusieurs jours, surtout si l'on ne sait pas que l'air est empoisonné. Mais alors, une question toute bête se posait. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On devrait être morts, nous aussi, comme nos parents, comme tous les autres. On était forcément déjà nés quand le nuage mortel est passé. Sabi fixait sur son mystérieux tableau les bébés posés par terre entre les lances et les épées des guerriers. Elle sembla impressionnée par le raisonnement de Zizo, sifflant entre ses dents pour souligner qu'elle le trouvait moins bête qu'elle ne l'aurait pensé. « Presque !» répondit Alix. « Presque né, mais pas tout à fait. Sais-tu quels sont les seuls êtres vivants sur Terre qui ont réussi à ne pas respirer cet oxygène contaminé ?» Zizo secoua la tête. « Les bébés ! Les bébés dans le ventre de leur mère ! Les bébés chats, les bébés chiens, les bébés rats et les bébés humains, protégés dans le ventre de leur maman, les bébés ne respirent pas avant de naître. Et si leur maman survivait assez longtemps pour accoucher, ils étaient sauvés. »
Zizo ne comprenait plus bien. Il ignorait comment naissaient les bébés. Il avait juste une vague idée de la façon dont on les faisait et avait toujours cru qu'ils étaient tous nés le même jour, lors du birthday, il y a 12 ans.
« Voilà, tu sais tout, » conclut Alix. Les seuls survivants sur la Terre furent les bébés nés quelques mois après le passage du nuage, dont les mamans n'étaient pas mortes aussitôt. Avec le nuage, les hommes et les femmes adultes étaient devenus stériles, et tous allaient mourir. Tu comprends maintenant pourquoi on a tous le même âge, à quelques semaines près. Je ne sais pas combien nous sommes sur Terre, combien d'enfants sont nés à Paris, en Afrique, en Chine ou en Australie, mais je sais juste qu'on a tous 12 ans. Et qu'il n'y a plus aucun adulte de vivant.
Zizo ne trouvait rien à dire. Il ignorait tout de ce monde d'avant, le monde des adultes.
Sabi enchaîna. Mon petit sauvage, même si tu n'as aucune idée d'à quoi ressemble un bébé ou un accouchement, tu dois te douter qu'un bébé ne survit pas tout seul dans la nature sans grande personne pour s'occuper de lui. Alors, les quelques adultes qui étaient encore en vie se sont organisés. Vous, les petits sauvages, je ne sais pas qui vous a servi de nounou, ça a dû se faire plus ou moins à l'arrache. Improvisation totale, genre, je vais bientôt crever les mômes, alors faites pas chier. Mais pour nous, ceux du château, c'était vachement organisé.
Ce que Sabi veut dire, reprit Alix, c'est qu'une centaine d'enfants ont été réunis dans le château.
J'ignore comment nous avons été sélectionnés,
qui étaient nos parents et d'où nous venons, je sais simplement, Marie-Lune nous l'a dit et redit, que nous étions les privilégiés, les élus, les gardiens de l'humanité.
Le regard d'Alix se perdit à nouveau dans la foule des personnages peints sur les fresques.
Tu vois, soupira Sabi, le genre de truc qu'on nous répète en boucle depuis qu'on est né. L'humanité dépend de vous. Vous êtes les seuls survivants, éduqués, les seuls à connaître la vérité, les seuls à vous souvenir. Tous les autres enfants qui survivront, dehors, vont oublier, mais pas vous. Et blablabla, et blablabla. Oh, tu te rends compte de la responsabilité? Vous êtes peinards, vous, les sauvages. Vous n'avez pas la terre à sauver, ni 10 000 ans d'histoire conservée dans ce musée à protéger.
Zizo contemplait en silence la beauté des lieux, sans oser contredire Sabi. Oui, tout cela méritait d'être sauvé. Il en avait la certitude.
Tout a été planifié,
expliqua Alix. Marie-Lune a tout coordonné, tout. D'après Augénor, elle a survécu 4 ou 5 ans après le passage du nuage. Elle nous a élevés. Certains prétendent même se souvenir d'elle du temps où elle était encore vivante.
Moi, je suis incapable de faire la différence entre un vrai souvenir de Marie-Lune et les films qu'elle nous a laissés. Avant de mourir, Marie-Lune, sans doute aidée de beaucoup d'autres adultes, a laissé des instructions, des règles précises auxquelles on doit obéir, comme apprendre à lire, écrire, compter, suivre des tas d'autres cours enregistrés à l'avance, passer des tests qu'un ordinateur analyse.
Des tonnes de règles, soupira Sabi.
On les appelle les commandements. Ne pas fabriquer d'armes, à part les beaux, bien entendu. C'est le premier commandement. Le deuxième, c'est ne pas manger de viande. Puis il y en a des dizaines. Ne pas tuer d'animaux, se coucher tôt, se lever en même temps que le soleil, respecter les 4 saisons et les rituels débiles, le sanctuaire, ses foutus jeux de l'étoile, le birthday, ses 12 coups de carillon.
Le birthday, pensa Zizo. Les éclairs lancés après minuit par le soleil de fer.
Le soleil de fer, c'est eux? Ce sont les adultes qui l'ont fabriqué?
Avant de mourir, pour nous protéger?
Oui, fit Alix.
C'est grâce à lui que chez nous fonctionnent la lumière, les ordinateurs, les écrans de télé, le chauffage en hiver. C'est lui qui protège le sanctuaire. Ce sont eux, les hommes d'avant, qui ont organisé le birthday, pile le 21 juin, le jour du solstice.
Zizo ouvrit des yeux ronds.
Le jour le plus long de l'année, si tu préfères, pour qu'on s'en souvienne, pour que la terre entière se souvienne que les nouveaux bébés devaient faire renaître la terre. Les éclairs que tu vois, ce sont des lasers. Le soleil de fer fonctionne à l'énergie solaire. Les petits génies du pavillon des savants pourraient expliquer ça précisément. Ils sont l'avenir de l'humanité. Les singes en sont la mémoire, et les soldats, les protecteurs.
Contre les sauvages, murmura Zizo.
Le soleil de fer avait été construit pour protéger les enfants.
Mais pas tous les enfants, seulement ceux du château.
Tu as tout compris, fit une voix dans leur dos.
Ils se retournèrent tous les trois. Augénor se tenait derrière eux et les observait avec un regard trop sérieux pour celui d'un enfant de 12 ans. Il avançait silencieusement sur son fauteuil roulant, tournant les roues à l'aide de ses mains. Autant ses jambes étaient maigres, autant ses bras paraissaient musclés. Avait-il écouté toute la conversation? Il fixa un instant Zizo dans les yeux, regarda Sabi, puis le tableau des Sabines, et s'arrêta sur Alix.
Tu es attendu. Réunion d'urgence dans la salle du conseil. Dépêche-toi, Alix.
Sans discuter, elle le suivit.
Décidément, pensa Zizo, encore un qui ne l'appelle pas majesté.